Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux, surtout d'avoir réussi à entrer, puisque c'est très très compliqué. Il y a une file d'attente extrêmement longue, donc vous avez dû beaucoup attendre, et c'est d'autant plus flatteur pour nos invités qui sont... Je les présente sans embâge, puisque nous ne devons pas traîner pour mener cette rencontre. Donc nous avons Sonia De Villers, que vous écoutez sur France Inter, et qui a écrit, qui a un sacré talent de plume, outre sa voix, qui publie Les Exportés. Donc c'est un récit publié aux éditions Flammarion. À côté de vous, Mackenzie Orcel, Une somme humaine. Je ne sais pas comment vous avez pu faire pour un livre aussi dense, aussi lourd et aussi finalement peu épais. C'est une grande fresque. On verra quel est le projet littéraire derrière cela, parce qu'il y en a un très grand, très ambitieux et absolument magnifique. Une somme humaine, publiée chez Rivage. Et Gilles Kepel, qui ne vient pas à nous parler de géopolitique. Et
pour une fois, oui.
Mais je crois que ce ne sera pas la dernière. Enfant de Bohème, publié chez Gallimard, avec un titre qui fait qu'on pense que vous parlez de vous, puis finalement, c'est peut-être pas de vous que vous parlez. Peut-être de votre papa, ou un peu plus loin. C'est un parcours personnel, un parcours de familial, mais aussi, ça vous ne pouvez pas vous en empêcher, un parcours culturel dans les apports que la Mitteleuropa, en particulier Prague, a pu jouer aussi tout au long du XXe siècle dans la culture française. Est-ce que je me trompe ?
Non, pas du tout. Et c'est aussi quelque chose qui n'est pas si différent. Les gens me disent toujours, mais enfin, Kepel, il vient nous parler du djihad, des islamistes, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et quand mon père a souffert et finalement est mort de la maladie d'Alzheimer, il y a quelques années, je m'occupais de lui. Moi-même, j'ai été condamné à mort par les djihadistes. Et donc, il y avait cette coïncidence tout à fait préoccupante qui m'a obligé à me demander comment j'en étais arrivé là, comment j'avais écrit certains de mes livres, pour paraphraser Raymond Roussel. Et de ce fait, je suis allé chercher d'où je venais à travers mon père. Parce que, vous savez, quand on a cette maladie, il y a des moments où on a des fulgurances extraordinaires sur le temps ancien, mais c'est complètement détaché de la réalité. C'est 2 minutes, et après, on a oublié ce qu'on a dit. Il me parlait surtout de son père. Et donc, j'ai cherché à savoir qui était cet homme qui était arrivé en 1908 de la Bohème profonde pour traduire Apollinaire en tchèque. Et en cherchant son existence, en cherchant qui il était, en cherchant comment tout ça s'était construit, finalement, j'ai essayé de décrire ce qui m'avait constitué, y compris comme arabisant et comme orientaliste. Pourquoi moi, qui suis un faux métèque, parce que je suis né en France, c'est ma langue maternelle est le français, etc. Mais pourquoi est-ce que je m'étais distancié en apprenant l'arabe, au grand drame de mon père, parce que au fond, pour un tchèque sorti des forêts de Bohême, le français c'était la langue universelle, c'est magnifique. Et puis j'ai appris une langue pour laquelle il avait un certain dédain d'une certaine façon, et donc tout ça, je crois, m'a permis d'éclairer ce parcours. Et puis paradoxalement, à travers cette espèce d'épopée, parce que ça n'est pas du tout un livre scientifique, hein. J'ai eu accès à énormément d'archives, mais dans une langue que je ne connaissais pas, parce que je peux lire des archives en arabe, mais pas en tchèque, je ne connais pas le tchèque. Au fond, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, se retrouve paradoxalement d'une assez grande actualité, puisque l'Europe orientale ou centrale n'avait pas d'histoire. Il y a eu Le rideau de fer qui nous a complètement coupés. On ne savait plus ce qui s'était passé, on avait oublié. Après, ils ont été intégrés dans le marché. Et tout d'un coup, il y a le retour de l'histoire avec la Russie qui envahit l'Ukraine. Guerre est devenue de nouveau père de toutes choses, pater, panton, polemos, comme on dirait en grec. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, parce que ce livre qui remonte à 1876 pour finir en 1950, c'est un peu une mise en abîme de l'Europe de laquelle nous sommes les enfants, et qui aujourd'hui nous revient dans la figure d'une manière à laquelle nous ne pensions pas. Ça fait 75 ans ou quelques, qu'en Europe, on vit sans guerre, on ne sait plus ce que c'est. Et là, ça va avoir des enjeux de vie quotidienne. Il va falloir s'habiller davantage, pas ouvrir le chauffage pendant l'hiver, etc. Parce que la guerre est de nouveau présente. Et toutes ces histoires, finalement, nous ramènent dans ce qui a été le passé et l'histoire un peu occultée de ce qui a constitué la France d'aujourd'hui. J'ai lu aussi le livre de mes camarades de torture ici, et en particulier celui de Sonia de Villers, qui nous raconte aussi comment on a cette... des gens qui sont aujourd'hui en France sont le produit d'événements oubliés dans la constitution de l'Europe contemporaine. Comment sa famille a été troquée contre des cochons pour venir en truc hallucinant, pour venir de Roumanie. Comment la mienne s'est construite à partir d'une fascination pour la France absolue parmi les Tchèques de l'Empire austro-hongrois qui voulaient par là s'émanciper. Et ça nous pose aussi toutes sortes de problèmes aujourd'hui. Est-ce que personnes d'origine étrangère qui sont en France au moment où on est pris dans les polémiques avec le Rassemblement national, avec la NUPES, etc., sont dans ce même trend qu'étaient ceux qui nous ont fait, ou est-ce qu'on a changé complètement de société? C'est un enjeu majeur pour les élections de 2027, si vous voulez. Donc tout ça c'est un peu mélangé et a fait que pendant les 10 dernières années, j'ai consacré mes petits matins à écrire ce livre.
10 ans.
Oui.
Sonia, forcément que le livre de Gilles Kepel fait écho au vôtre et à votre parcours de votre famille, puisque votre ancrage, l'ancrage de votre famille, pas le vôtre, mais celui de votre famille, il est en Roumanie. Alors Gilles nous a un peu divulgaché le contenu. Non, mais pas du tout. C'était juste pour vous embêter. On va peut-être, vous allez nous dire, vous qui êtes la première génération à ne pas avoir émigré de votre famille, de qui avez-vous voulu parler ?
Au départ, je voulais pas parler de moi. Au départ, je voulais surtout pas écrire ce livre à la première personne. Au départ, je me sentais même pas le droit de m'inscrire dans cette histoire. Et puis petit à petit, il a fallu utiliser le jeu, petit à petit, parce qu'il a bien fallu que je m'insère dans cette généalogie et que petit à petit, je réfléchisse à ce dont quoi j'étais le produit, comme vient de dire Gilles Kepel. Et oui, je suis le produit d'une histoire. Je suis le produit d'une histoire d'une famille juive où à chaque génération, on a fui l'antisémitisme, on s'est exilé. Et je suis aussi le produit d'une somme de silences qui se sont succédés, qui se sont sédimentés, qui se sont empilés. Et il y a des silences familiaux et puis il y a des silences politiques. Et entre l'exil et les silences, eh bien, oui, j'ai été obligée de parler de moi. J'ai été obligée d'écrire ce livre à la première personne pour dire, au fond, de quoi j'hérite, moi. Une histoire pleine de trous, pleine de blancs, pleine d'endroits où il manque des mots, pleine d'anecdotes sur le passé familial, mais des anecdotes qui ne racontent jamais rien. Jamais rien de lourd, jamais rien de triste, jamais rien de menaçant, jamais rien de grave. Où, au fond, la mort ne plane jamais, alors qu'elle a plané tout le temps sur l'histoire de cette famille, la menace et la mort. Et au fond, oui, je suis l'héritière d'une somme de peur qui n'a jamais dit son nom. Voilà. Donc, il a fallu que je parle de moi.
Alors, on va mettre les pieds dans le plat, Sonia. La Roumanie, évidemment, a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas eu de procès de Nuremberg en Roumanie. La Shoah a été ravageuse, et plus que ça, et les régimes qui se sont succédés ont confirmé l'antisémitisme qui a enflammé le pays pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comment votre famille s'est retrouvée dans ce creuset infernal ?
Mais en fait, c'est justement une histoire complexe parce que moi, je viens d'une famille juive, d'intellectuels juifs, complètement assimilés, totalement indifférents à la pratique religieuse et à cette assignation identitaire. Je viens d'une famille qui ne raconte pas son passé juif. Mes grands-parents se sont rencontrés en 1935. Ils n'ont jamais raconté la montée des ligues fascistes à Bucarest. Or, les ligues fascistes en Roumanie, c'est quand même le deuxième mouvement fasciste d'Europe après ceux qui enflent en Allemagne. Oui, la Roumanie est le principal bras armé des nazis à l'Est. Il y a eu une Shoah effroyable en Roumanie, une Shoah oubliée, une Shoah enterrée. Parce qu'à la fin de la guerre, les communistes prennent le pouvoir en Roumanie, que les communistes sont les adversaires historiques des fascistes, qu'ils ne peuvent pas assumer ce passé fasciste, qu'ils entreprennent une vaste falsification de l'histoire, où justement toutes les exactions commises en Roumanie, les déportations, les massacres, les pogroms, la Transnistrie, cette bande de terre entre l'Ukraine et la Roumanie, où il s'est passé des choses effroyables, tout ça est passé sous silence et tombe peu à peu dans l'oubli. Et surtout, les Juifs de Roumanie n'ont qu'une envie, c'est devenir à leur tour communiste, c'est bâtir le genre humain, c'est adhérer avec une conviction active à la création de ce projet de société. Et ils n'ont qu'une envie, c'est oublier. Oublier ce passé qui les différencie, qui les ramène à la haine, qui les ramène à l'humiliation, qui les ramène à la discrimination. Et donc mes grands-parents changent de nom après la guerre, non pas avant la guerre, non pas pendant la guerre, mes grands-parents changent de nom après la guerre pour se réinventer une histoire, pour devenir maîtres de leur propre récit. Ils vont chercher leur nom dans un roman, un best-seller, un livre qui fait fureur en librairie. Ils s'inventent un nom, ils prennent un nom de fiction et puis ils font carrière au Parti communiste. Et ce que le Parti communiste ne dit pas, c'est que l'antisémitisme est toujours là. C'est que les fascistes d'hier ont, pour beaucoup, trouver leur place au Parti communiste en quelques jours et que les légionnaires d'antan sont devenus de parfaits petits suppôts de la République populaire. Et au fond, l'antisémitisme est toujours là, sauf qu'il n'a plus de nom et qu'on ne parle plus des Juifs et ce qu'on ne nomme pas n'existe pas, ce qu'on ne nomme plus n'existe plus. Donc voilà l'histoire de ces Juifs roumains qui ont fait carrière au Parti communiste, qui y ont cru, et puis petit à petit, qui se sont fait expulser par ce régime, par ce système qu'ils ont eux-mêmes contribué à bâtir.
On verra dans quelles circonstances aussi, parce que les cochons, ce n'est pas uniquement par perversion, il y avait un argument agricole plausible. Et là, Mackenzie se dit, mais qu'est-ce que je fais ici, puisque mon livre n'a absolument rien d'une histoire familiale, que j'ai écrit une pure fiction et que je suis dans un grand projet de fiction pure et de langue. En fait, je crois qu'il y a quand même des choses en commun, puisque si Gilles Kepel et Sonia de Villers brossent le rapport entre les vivants et les morts de leur famille, vous parlez d'une morte qui nous raconte le rapport entre la vie, ce qu'elle a vécu et ce qu'elle est en train de vivre en tant que morte. Et surtout, c'est le parcours d'une jeune femme française, de sa vie jusqu'à sa mort, avec ce qui a fait d'elle, ce qui l'a conduit sur un quai de métro. Là, je ne divulgue rien. On sait qu'elle est morte au début, hein ? D'accord. Alors, de qui nous parlez-vous et pourquoi cette femme n'est pas seule dans le grand projet de création que vous avez ?
Et de qui je parle ? Enfin, mon projet littéraire est assez simple et complexe.
Non, allez-y.
Il faut parler fort pour ce...
Je m'intéresse beaucoup à l'astronomie. Et quand une étoile naît, c'est un champ gravitationnel qui tourne très fort et qui va chercher et des énergies chimiques, quantiques nécessaires pour pouvoir se former, continuer à tourner et se compléter et former une étoile et briller. Mais chaque étoile dans le ciel, c'est un événement assez rare. C'est comme les spermatozoïdes. Il y en a seulement un qui va se faire choper et qui va former un champ gravitationnel et briller, l'enfant qui naît. Et donc, quand cette étoile se meurt, elle redevient un champ gravitationnel et elle s'effondre sur elle-même, elle devient un trou noir. Et les scientifiques n'arrivent pas à voir ce qui se passe dans un trou noir. Donc, c'est la mort. Comme nous, on ne sait pas ce qui se passe dans la mort. On ne sait pas parler de la mort. C'est le flou, c'est l'inconnu, c'est tout ce qui nous échappe. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, ce lieu, cet inconnu, de partir de ce lieu et remonter le fleuve de l'existence vers autre chose. La première phrase de mon livre, c'est « Tout s'éclaircit à partir de la mort ». Et la dernière phrase, « À partir de la mort, tout recommence ». Donc l'idée c'était d'essayer de raconter la vie d'une étoile. Pour moi, ma narratrice, bon, on veut du masculin, on veut du féminin, mais ma narratrice, pour moi, c'est une étoile. Je voulais raconter le parcours d'une étoile. C'est une femme qui est née, qui a grandi dans un petit village du sud de la France, dans une famille pour le moins dysfonctionnelle, avec un père absent, lâche, une mère qui n'est pas à sa place parce que cette vie n'est pas faite pour elle.
Elle est même en rivalité avec sa fille. Enfin, elle est une espèce de...
Oui, il y a beaucoup de distance parce qu'elle ne sait pas faire. Elle a rien reçu, donc elle peut rien donner. Et l'oncle, qui est un être absolument monstrueux, donc il s'est passé des choses. Et dans cette famille, à un moment donné, elle va décider de quitter ce village. Elle arrive à Paris. Tout ça, c'est le champ gravitationnel qui tourne. C'est-à-dire, elle cherche des choses dans la vie, des énergies, des rencontres et de l'amour. Elle lit beaucoup, mais elle n'arrive pas à s'accrocher à quelque chose. Et tout mon roman est dans cette quête-là, dans la quête de quelque chose, dans cette impossibilité de s'accrocher à ce qui est. Et donc, elle a décidé de claquer la porte. Mais ce n'est pas glauque du tout. Ce n'est pas un suicide, malheureux. Elle le dit elle-même. Elle le dit, je ne me sentais pas dans la bonne vie, dans la bonne existence, dans le bon corps, dans la bonne société. Et j'ai décidé de claquer la porte vers autre chose. Et à partir du moment où elle est passée de l'autre côté de la vie, de l'autre côté du visible, de l'autre côté du connu, et là, elle a commencé à parler et s'opère ce champ gravitationnel. Le champ gravitationnel, pour moi, c'est la langue. C'est une sorte de passerelle qui relierait le visible et l'invisible, la vie et la mort, le village, un monde pré-cartésien, retiré, paumé, et Paris, la modernité, le bouillonnement. Et c'est le Québec que j'ai raconté dans le livre. C'est le Mali. C'est-à-dire, c'est le monde qui tourne autour d'une langue. Et la langue qui essaye de charrier tout ça, de porter tout ça. Et en fait, c'est le projet. Donc, le premier volet se passe en Haïti. C'est le même travail. C'est la même démarche, la même langue. Et en village retiré, Port-au-Prince, cette femme qui parle depuis le lieu de la mort, qui remonte le fleuve de sa vie.
L'ombre animale, le titre.
L'ombre animale. Une somme humaine, c'est la même démarche dans un autre espace géopolitique. Et le dernier volet, ça va être l'Amérique dans toute sa splendeur avec ses démons. Donc je trace ce triangle de Port-au-Prince à l'Amérique en passant par la France parce que l'homme que je suis, l'écrivain que je suis, a envie de questionner ce triangle puisque c'est la base même de mon imaginaire. Je viens de ce triangle. Haïti, ancienne colonie française, anciennement occupée par les États-Unis. Donc il y a une histoire commune. Le triangle est là et j'ai besoin de questionner ça romanesquement, de voir dans la fiction qu'est-ce que ça pourrait donner. Et cette rencontre, ce choc entre la grande histoire et une petite histoire, l'histoire d'une femme ordinaire, inconnue, et qu'est-ce que ça pourrait donner. Parce que je pense qu'on est constamment écrasé par la grande histoire, par les grandes décisions politiques, par justement par cette parenthèse dans laquelle on nous enferme, la trifidité de l'existence humaine, le passé, le présent, le futur. Mais avant le passé, il y avait quoi? Après le futur, il y aura quoi? Donc, vivre, naître, vivre, s'épanouir, périr, trifidité, chrétiennement parlant, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ce chiffre 3-là m'intéresse beaucoup et j'essaye de déplacer le regard à chaque fois pour essayer de, de comprendre, mais depuis l'autre côté, pas depuis l'intérieur de la parenthèse même. Voilà.
En effet, on n'a pas de sentiment de désespoir. Il n'y a rien de poisseux qui attrape le lecteur dans la lecture, alors qu'effectivement, vous racontez un itinéraire terminé, puisque nous allons tous mourir, et en l'occurrence, votre héroïne, elle est morte dès le départ. Mais peut-être aussi parce que le choix de narration qui a été le vôtre, qui s'incarne aussi dans un choix de ponctuation, qui s'incarne dans un choix de forme, donc, c'est d'abord le choix d'un souffle. Et peut-être qu'on ne peut pas être plombé parce qu'on est tendu par un souffle tout le temps. Alors là, on n'est plus dans les étoiles, on est où d'ailleurs ?
Je ne sais pas si le continuum des planètes dans l'univers est ponctué. Je ne sais pas si quand on parle, et si c'est ponctué, quand on parle, je ne sais pas si on dit un truc, après ça on s'arrête parce que c'est le point, on continue, virgule, je ne sais pas. Je ne sais pas si la vie est ponctuée, je ne sais pas si la mort est ponctuée. Le vent n'est pas ponctué, le souffle de l'existence n'est pas ponctué. Et je voulais absolument que mon livre ressemble à ça, à ce souffle. Quand on l'ouvre, qu'on voit ce souffle, on a l'impression que c'est une tempête, c'est un grand vent qui traverse, qui traverse les pages. Sans début ni fin, on ouvre le livre où on veut et on est dans le mouvement, on est dans le champ gravitationnel. Chaque situation, chaque scène, chaque évocation, chaque métaphore se retrouve spaghettifiée autour de ce champ gravitationnel. Voilà.
Alors moi, je n'avais pas du tout pensé à ça. En revanche, j'avais beaucoup pensé à Nietzsche avec l'éternel retour.
Oui, aussi. Oui. Aussi, Nietzsche m'a dit un truc une fois qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide encore. Et quand il a dit dans Ainsi parlait Zarathoustra, l'homme, c'est quelque chose qui doit être dépassé. L'écriture aussi, la littérature aussi. Je pense que moi, c'est ce que je me dis. À chaque fois que je me lance dans un projet, je me dis je dois absolument me dépasser parce que je peux faire mieux. Et ça, c'est très important pour moi.
Sonia et Gilles vous écoutent. Et au fond, tous les deux, en écoutant Mackenzie, qui est dans vraiment une recherche d'écriture très, très élaborée, très, très aboutie, très, dans un vrai processus, au fond, vous avez voulu raconter quelque chose qui a trait à votre famille, mais il y a, comme vous disiez, Sonia, il y a beaucoup de trous dans vos histoires à tous les deux. Au fond, vous avez quand même été contaminés par la tentation de la fiction, tous les deux. Parce qu'au fond, vous avez écrit deux romans, peut-être deux romans beaucoup vrais, mais c'est des romans que vous avez écrits vous aussi. C'est un projet littéraire plus qu'un projet d'intimité.
Oui, effectivement. Quand j'ai entendu parler du style, ça m'a beaucoup interrogé parce que mon grand-père, qui est un personnage que j'appelle dans l'épopée, que j'appelle Rodolphe K, avec la lettre K simplement, était un excellent francophone. Mais tout ce que j'ai trouvé de lui, les milliers de lettres qu'on a retrouvées dans les archives, étaient exclusivement en tchèque, qui m'ont été traduites. Sauf quelques-unes, sauf une lettre qu'il écrit à Apollinaire au moment où celui-ci est emprisonné parce qu'il avait été accusé de tremper dans le vol de la Joconde au musée du Louvre, puisque Apollinaire vivait dans un milieu interlope. Sa mère avait d'abord s'était prostituée au Vatican, puis quand le denier du culte avait été épuisé, elle s'était reportée sur Monte-Carlo après, où son jeune frère était né. Et donc, il avait un peu ses fréquentations. Mon grand-père, très naïf, donc lui exprime ses regrets, qu'il y a eu une pareille méprise, qu'on l'a arrêté, etc. Et cette lettre qui est en français, dans un français qui est très typique des années 10 du XXe siècle, donc il y a 110 ans, extrêmement travaillé, avec d'ailleurs une petite faute qui fait prévaloir pour lui le plaisir d'écrire en français sur le sens. Il dit ce que je lis là n'est pas si étrange à ce que je viens de traduire de vous. Il veut dire étranger. Non. Et du coup, je me suis efforcé de retrouver pour arriver à rentrer dans ce monde de mort, justement, dont Mackenzie vient de parler. Je me suis efforcé de remettre en circulation un langage qui aujourd'hui est un petit peu obsolète. Et en particulier en utilisant des termes techniques, il y a beaucoup de choses dans le texte sur la forêt, sur cet homme qui est né dans une maison forestière en Bohême et qui, contrairement à un autre cas beaucoup plus fameux tchèque, c'est-à-dire Kafka qui écrit une lettre au père. Moi, j'écris aussi une lettre au père parce que je m'adresse à lui en lui disant « tu », mais je fais intervenir son propre père parce que mon père, dans la situation où il était un majeur protégé, j'avais sa tutelle, donc j'étais devenu son père. Et donc, je me suis intéressé à qui était son père véritable, si j'ose dire. Et en faisant cela, j'ai voulu retrouver les mots à travers lesquels il décrivait le monde. Pour, d'une certaine manière, vous avez parlé du souffle, du vent qui traversait votre récit. Effectivement, c'est très présent dans le refus de la ponctuation, dans les phrases en majuscules, etc. Et dans un tout autre registre, je me suis essayé et je me suis efforcé aussi de faire correspondre un style avec ce que je me représentais de ce qu'avait pu être cette époque, que je n'ai bien sûr pas vécu. Je ne suis pas né en 1876, même si je suis le plus âgé sur cette tribune.
Pardon de vous couper, Gilles, mais enfin, avec quand même beaucoup de gourmandise, vous n'êtes pas forcé.
Oui, absolument, mais je crois que nous sommes là logés à la même enseigne. Peut-être c'est aussi un truc de métèque. Nous sommes tous les trois, d'une certaine manière, des métèques vrais ou faux. Enfin, on s'invente comme tel. Et il me semble qu'à partir du moment où on a ça en tête, il y a quand même une véritable jouissance très particulière de parler et d'utiliser la langue française, de lui donner, d'une certaine manière, la plénitude qui est la nôtre et qui fait qu'en dépit des origines multiples qui sont les nôtres, nous sommes entrés dans cette langue. Et ce qui fait que nous sommes français, quel que soit ce qu'on met sous ce terme, c'est la manière dont nous nous identifions à cette langue et dont nous l'utilisons pour créer de la littérature, vous voyez. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui, pour moi, est très, très important, puisque bon, j'ai écrit effectivement une vingtaine d'essais sur le monde musulman. Mais là, il m'a semblé que c'était une façon de comprendre quel avait été aussi mon itinéraire. Comment je me suis retrouvé un beau matin condamné à mort par Daesh, obligé de vivre sous protection policière. Et le gars ne voulait pas juste faire un auto-da-fé, il voulait me couper la tête. Et à partir de ce moment-là, vous avez un rapport à ce que vous faites, à votre travail, à votre écriture, qui devient complètement différent. C'est quelque chose qui vous implique beaucoup plus profondément dans votre être même. Et pour arriver à tenir le coup face à ça, c'était très important de retourner au plus profond de ce que je pouvais découvrir de moi-même. Et ce livre est une multiplicité de coïncidences. C'est un peu comme je n'ai pas fait de psychanalyse, mais c'est un peu comme ça que j'imagine une analyse, c'est-à-dire un propos qui fonctionne sur la libre association et aussi sur le signifiant et qui ainsi reconstitue toute une histoire et tout un devenir.
Alors Sonia, qui ne voulait surtout pas dire « je » dans son livre.
Alors, Donc je crois que le travail, je crois que ce livre ne va jamais, jamais, jamais chercher du côté du roman, jamais. C'est-à-dire, en fait, l'histoire, c'est que au bout d'une quinzaine d'années, d'une belle carrière au sein du Parti communiste, mes grands-parents sont expulsés par la machine de manière extrêmement brutale, extrêmement violente, extrêmement humiliante, et il faut partir. Et ils réussissent à quitter la Roumanie grâce à un passeur. Ma mère avait 14 ans, ma tante avait 16 ans, il y avait mes grands-parents, il y avait mon arrière-grand-mère. Ils réussissent à quitter la Roumanie grâce à un passeur. Il faudra attendre la chute du régime communiste, il faudra attendre l'ouverture des archives. Il a fallu exhumer 20 000 pages d'archives des services secrets roumains pour découvrir la vérité. La vérité, c'est que nul ne pouvait quitter la Roumanie, sauf les Juifs. Et qu'en réalité, les Juifs ont été, à partir de 1958, vendus. D'abord tête par tête, puis famille par famille, puis massivement vendus par le régime communiste pour remplir les caisses du régime.
Il y avait la filière Jacobert. Hein,
voilà, ça ils sont passés par ce majeur. Voilà. Et dans les premières années, le déclenchement du livre, de ce projet, de ce travail, puisque je travaille à la radio, et parce que mes mots ne s'impriment jamais sur du papier, c'est la première fois, c'est qu'en réalité, dans les premières années de ce commerce d'êtres humains, de cette traite d'êtres humains, le régime n'a pas osé vendre les Juifs contre monnaie sonnante et trébuchante, mais on a procédé à un troc. Et de quoi la Roumanie avait-elle besoin à l'époque? De moderniser son agriculture, d'intensifier son élevage et de se procurer du bétail. Et n'ayant rien pour payer du bétail, la Roumanie considère qu'elle a deux monnaies d'échange, le pétrole et les Juifs. Et donc la Roumanie va vendre ses Juifs en échange de bétail. Et de quoi a-t-elle le plus besoin? De porcs. De porcs à haut rendement, de porcs de compétition, de porcs danois, de porcs Landreis, qui sont les mêmes porcs que se procure la France et par exemple une région comme la Bretagne, qui a besoin elle aussi d'intensifier son élevage. Donc c'est ce bétail, on se le procure un peu partout en Europe, en Roumanie aussi à la fin des années 50. Or, il reste en bon état totalitaire des traces administratives de tout ce commerce. Il reste des inventaires, il reste des listes, il reste des registres. Tout a été minutieusement consigné par une administration totalement aveugle, mais tatillonne et pointilleuse. Donc en fait, moi, le début de ce livre, c'est tomber sur des listes de juifs sans fin, des listes de juifs transformés en équivalent bétail pour savoir contre combien de porcs, de veaux, de vaches, de poulets, de brebis, de moutons, ils allaient être échangés pour avoir le droit de partir. Et donc, il y a des histoires de vie et de mort dans ce livre, c'est-à-dire que mes grands-parents ont échappé à la déportation. Ils n'ont pas été déportés, mais ils ont été exportés. Il a fallu que je trouve un mot. Il a fallu que je trouve un mot, parce que ce ne sont pas des exilés, ce ne sont pas des rapatriés, ce ne sont pas des expatriés, ce ne sont pas des réfugiés, ce ne sont pas des émigrés, ce sont des exportés. Il a fallu trouver un mot qui vienne du champ lexical du commerce, parce qu'ils ont été vendus comme des marchandises. Et il y a quelque chose de tellement sidérant d'être face à ces listes que non, la tentation n'a pas été celle du roman. La tentation a été celle de trouver désespérément des mots qui donnent du sens à ce qui est impensable parce que pleinement rempli d'impensé. Et jusqu'où peut aller l'impensé roumain, l'impensé de cet antisémitisme qui n'a plus de nom pour considérer que la population juive, et je vous parle de centaines de milliers de personnes, hein, que la population juive d'un pays peut être considérée comme une marchandise. Et je vous ai parlé de silence, mais en réalité, derrière ce silence, il y a un impensé. Et cet impensé, il faut remettre de la pensée dedans. Désespérément remettre de la pensée. Je ne suis même pas sûre d'y être arrivée. Donc moi, j'ai travaillé sur des chapitres très courts, très rythmés, où j'ai utilisé la première personne du singulier, mais j'ai clos les chapitres le plus rapidement possible parce que tout ça a été guidé à la fois par une forme de nervosité, d'inquiétude, mais aussi de pudeur. Et non, jamais j'ai été du côté de la fiction. J'ai été désespérément chercher du côté de ce qui peut donner du sens à quelque chose d'aussi effarant.
Et pour autant, c'est clair dans votre livre, mais pour autant, vous faites de votre famille, qui sont des personnes, vous en faites des personnages.
Des personnages.
Ce passage-là, il emprunte au roman. Et pour la journaliste que vous êtes, est-ce qu'il y a... Et en plus, la fille, la petite fille que vous êtes, est-ce qu'il n'y avait pas comme un interdit, comme un tabou, comme une espèce, ou en tout cas un inconfort à changer votre place dans la famille?
Mais c'est complètement transgressif.
Oui.
Mais je veux dire, je peux m'adresser à tous les enfants d'immigrés, d'exilés, de réfugiés, alors là, de rapatriés. Enfin, je veux dire, à nous tous, il y a une part du voyage qu'on n'a jamais racontée. À nous tous. Nous tous. Nous tous, on a des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont laissé une partie de l'histoire dans le pays d'avant, dans l'autre langue, celle que nous, on n'a pas parlé, celle que nous, on ne nous a pas transmise. Donc, oui, bien sûr, il y a quelque chose de profondément transgressif à refaire le passage, le voyage à l'envers, à recréer du lien, à remettre des mots qui passent du passé au présent, du pays d'avant au pays d'aujourd'hui, du bloc de l'Est à celui de l'Ouest. Enfin, le rideau de fer, il est, dans ma famille, il est profondément symbolique et immatériel aussi. Il y a vraiment un mur à franchir. Il y a vraiment un mur à franchir.
Mackenzie, dans ce que vient de dire Sonia, voilà, juste sur la fin, sur la question de la perception de la place et de la transgression, Gilles aussi disait qu'il s'est avéré sur la fin de la vie de son père, qu'il est devenu son propre père et donc s'est intéressé au père de son père, au vrai père de son père. Il y a quelque chose de la question de la place dans la famille que vous traitez aussi à travers votre jeu, votre héroïne, qui essaye elle aussi, il me semble, de trouver sa place, mais pas dans la famille pour le coup.
Oui, enfin, je pense que tous les trois et à ce panel on fait quelque part la même chose, c'est-à-dire au-delà de la fiction, au-delà de la non-fiction, on passe par l'écriture pour arracher une histoire à l'oubli, immortaliser une vérité, immortaliser le vrai, que ce soit la fiction ou la non-fiction, à partir du moment où ça touche, à partir du moment où ça part d'un point A humain vers un point B humain, et l'espace devient ouvert et on le partage. Et par rapport à la famille, moi je pars toujours de ce cercle-là parce que c'est un cercle qui m'intéresse beaucoup. Parce que dans l'histoire d'Haïti, il y a un gros vide. La famille n'a jamais existé en Haïti, c'est-à-dire de façon officielle, ça n'a jamais existé. Et à cause de la colonisation, des occupations, des coups d'État, à chaque fois, ce sont les hommes qui partent au combat et ils ne reviennent pas. Et ça fait des enfants sans père. Les Américains sont arrivés en 1915. Ils sont restés pendant 3 décennies en Haïti. Et quand ils sont repartis, ils ont laissé des enfants. Et donc, c'est toujours la mère qui est là, qui est présente pour accompagner, pour aider et tout, pour faire en sorte que l'enfant et grandisse et fasse quelque chose de sa vie. Donc du coup, puisque on revient à cette idée de l'inconnu, voilà, de l'intangible, et puisque je ne sais pas ce que c'est vraiment, parce que moi j'ai grandi avec ma mère, hein, mon père est parti très tôt et de la maison, et je pars toujours de là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans une famille. C'est quoi être père? C'est quoi être mère? C'est quoi être l'enfant de quelqu'un? C'est quoi? Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais à chaque fois, je me rends compte que ça peut être un espace assez violent, à la fois nécessaire, écrasant, et épanouissant. Et dans le cadre de ce livre, c'est un espace assez, c'est violent, c'est à la fois onirique, et puis qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire, d'une histoire familiale? Et c'est une question qui m'a toujours interpellé, qu'est-ce qu'on fait d'une histoire familiale? Et à partir du moment où on prend la décision de partir. À partir du moment où on a envie de partir, on a envie de découvrir le monde, on a envie de voir autre chose, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se détache? Est-ce qu'on s'éloigne? Est-ce qu'on oublie? Est-ce qu'on revient? Et quand on revient, qui revient en fait? Donc ma narratrice a décidé de partir complètement, de couper la passerelle, parce que quelque part, elle a envie de se rencontrer, de se regarder dans un miroir et de pouvoir voir son propre visage. Je n'ai jamais décrit son visage. Je ne l'ai jamais décrit par respect pour elle. Parce que c'est toute sa quête est là. La quête de sa propre identité, de son propre visage et de sa place dans cette société. Et à chaque fois qu'elle essaye de dessiner cette place, hop, c'est pas possible. Et elle a beaucoup essayé. Donc, je ne sais pas si c'est une femme complètement, constamment écrasée par l'histoire familiale ou par l'histoire de ce village, parce qu'après, il faut en parler. C'est une petite société avec tout ce qu'on connaît, le bureau de poste, la pharmacie, l'église, le poids de l'église et les fantômes. Et elle évolue, elle grandit au milieu de tout ça, elle ne comprend rien. Elle ne comprend rien parce qu'elle n'a pas sa place, parce qu'on ne lui a pas donné sa place dans sa famille. Sa mère ne lui a jamais dit « je t'aime ». Sa mère ne l'a jamais regardée. Son père laisse faire. Donc, on fait quoi? On fait quoi d'une telle histoire? Toute la question est là, en fait.
Vous êtes beaucoup plus Orcel que Mackenzie. Ceux qui ont lu votre livre comprennent.
Non, enfin, je ne sais pas.
Ah bah quand même.
Non. Moi, je n'ai pas envie d'être mauvais, je n'ai pas envie d'être bon. Je suis ce que je suis. Et ça me permet de traiter mes personnages, pas en tant que juge, avocat, mais en tant qu'observateur. Voilà. Moi, je ne crains pas de personnage. Je suis dans une rencontre. Et à partir du moment où la rencontre est là, j'écoute beaucoup. Il y a des moments où ça n'allait pas entre moi et ma narratrice. Je lui ai dit, en fait, non, tu ne vas pas faire ça. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Mais je raconte son autobiographie. Je n'ai pas ma place dans cette histoire. C'est son histoire. Donc, je la suis. Et Orcel et Mackenzie, c'est deux personnages. Orcel qui est un blanc manipulateur et Mackenzie.
Orcel, c'est l'inverse.
Mackenzie qui est un blanc manipulateur, son amant, et Orcel qui est un jeune malien qui est arrivé à Paris avec ses deux frères. Et voilà. Pourquoi ces deux personnages? Parce que tout le livre, c'est une part de cette rencontre ou va vers cette rencontre entre des extrêmes de l'existence humaine. Le jour, la nuit, le village, Paris, je l'ai dit. Et à un moment donné, j'ai décidé de séparer mon prénom de mon nom de famille pour participer à ce jeu, à cette ambiance et dichotomique. Donc voilà. Mais Mackenzie, c'est pas moi. Orcel, c'est pas moi. Mais je les aime parce que ce sont mes personnages.
Non, mais c'est bien parce qu'en fait, c'était une question qui n'en avait pas l'air d'une. Vous êtes tombé dans le piège. On a quelques minutes seulement à partager. Avez-vous une question à poser à l'un de nos invités? Sachant que plus le premier traîne et moins le deuxième peut poser sa question. Soyez solidaires. La première étant difficile à poser, mais lancez-vous. C'est à vous d'avoir la parole.
C'est génial comme invention.
Il y a encore 1000 questions à poser. Mais on n'aura pas le temps. Non ? Pas du tout ? Pas du tout.
Une question à M. Kepel. Avez-vous des regrets de vivre en France actuellement ?
Mais pas du tout. Au contraire, je ne vois pas où je pourrais vivre ailleurs. Où auriez-vous voulu que je vive? Dans le monde arabe, je l'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je n'ai peut-être plus tellement envie d'y aller. Il a été ravagé dans le dernier demi-siècle par une explosion démographique qui a détruit les paysages, détruit les villes, qui en a fait l'otage de la mondialisation avec des... sans aucune planification. Donc, les souvenirs merveilleux de ma jeunesse sont transformés en des en des paysages cauchemardesques. Et puis, par ailleurs, la pression des mouvements que j'ai étudiés, des mouvements islamistes, est devenue telle que c'est un monde qui a complètement disparu, qui s'est complètement transformé. C'est peut-être pour ça que je me suis déporté d'une certaine façon pour essayer de retrouver ce que j'avais connu autrefois. Et pour essayer de continuer sur le débat qui a été lancé, Sonia nous a dit, moi je ne suis pas du tout dans la fiction. Effectivement, c'est un texte qui est très, très précis, très, très médical, si j'ose dire, même s'il y a un enjeu de forclusion là derrière, pour utiliser le vocabulaire de la psychanalyse. Et si Mackenzie, lui, est délibérément entré explicitement dans la fiction, d'une certaine manière, moi, je me situe dans une espèce d'entre-deux, ce qui est compliqué pour la classification par les éditeurs, qui s'appelait où ils en sont, qui est en fait dans le titre. Le titre est « Enfant de Bohème » avec un accent circonflexe. L'accent circonflexe, dans Bohème, veut dire le pays tchèque. Et la Bohème avec un accent grave, c'est Montparnasse, c'est Puccini, etc. Alors, pour terminer sur un mode plaisant, donc je ne sais pas si vous faites des mots croisés, Karine, donc il y a une définition de verbicruciste qui est en fait de Max Falelli, qui est la suivante, on va voir si vous allez trouver. Donc, en cinq lettres, jeune anarchiste tchèque. Amour, bravo madame. Pourquoi amour?
Waouh!
Pourquoi amour? Parce que amour est enfant de Bohème. Wow. Il n'a jamais, jamais connu. Attendez, il faut attendre le deuxième. Il n'a jamais. Parce que déjà, je chante faux. Alors, il n'a jamais, jamais connu de loi. Donc, s'il n'a jamais, jamais connu de loi, il est anarchiste. S'il est enfant, il est jeune. Et s'il est tchèque, il est de Bohème. Mais il fait la même. Même jeu de mots que moi, sans le savoir. D'ailleurs, je ne connaissais pas ça quand j'ai écrit. C'est Sylvain Tesson qui m'a raconté ça dans un festival du livre dont je lui rends hommage l'autre jour. Et l'enfant de Bohème du jeu de mots de Favalelli, c'est un enfant de Bohème en principe avec un E accent grave, mais lui, il le met avec l'accent grave puisqu'il est jeune, tchécoslovaque. Et c'est ça, c'est un peu là que se situe l'articulation entre. Le recours à la fiction, puisque, comme d'une certaine manière, les personnages que recrée, je suis tout à fait d'accord avec ce caveat qu'a fait Karine à propos de votre texte. Effectivement, vous n'avez pas voulu faire de la fiction, mais vous avez créé des personnages. Et donc, le lien entre ces les individus réels desquels vous avez construit votre récit et ce que vous en faites, ce que vous en dites, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ni que ce soit mes parents, ni que ce soit les vôtres, ni que ce soit une histoire que vous avez eue personnellement. Ça, c'est notre affaire à nous. Mais c'est la façon dont on le transcende en faisant autre chose pour porter à une réflexion plus générale qui, finalement, peut intéresser chacun d'entre nous, même si vous n'êtes pas issu de la famille Greenberg, de la famille Keppel, ou je ne sais pas si c'est la famille Orcel, puisque même le nom et le prénom ont été déconstruits. Mais c'est ça, justement, ce qui construit la littérature. Et en exergue du livre, je cite deux petits textes, trois vers d'Apollinaire qui sont un peu ma feuille de route. Et tu retournes aussi dans ta vie lentement en montant au Hradčín, c'est le château de Prague, et le soir en écoutant dans les tavernes chanter des chansons tchèques, donc après 400 pages. Et l'autre, c'est une citation des Goncourt. Vous savez que le prix a été délivré hier dans des circonstances particulièrement musclées et qui remettent en cause même, à la limite, la façon dont fonctionne la comédie des prix, de manière sans doute beaucoup plus dense. C'est la première fois qu'un juré rue dans les brancards publiquement, comme Ben Jelloun l'a fait ce matin. une citation des Goncourt, donc peut-être que les jurés pourraient réfléchir, sur lesquels ils pourraient réfléchir, le mot manque. Méditer, voilà, heureusement que vous êtes là. Méditer, qui est la suivante. Le roman est une histoire qui aurait pu être. L'histoire est un roman qui a été. Donc, d'une certaine manière, on se situe peut-être tous les trois à des endroits différents de ce continuum. Et l'obsession sur la fiction, la non-fiction, le roman est une histoire de la bourgeoisie industrielle du 19e siècle. Nous sommes dans un autre monde aujourd'hui. Il est peut-être temps de s'en rendre compte, mais grâce à vous, vous allez être la prophétesse de ces temps nouveaux.
Non, je vais être celle qui ferme la porte.
Et qui nous met dehors.
Oui, c'est bien. Mais la prophétesse met les gens dehors. Les prophètes, en général.
On va dire qu'il y a de la littérature et de la littérature du réel. Et je crois que comme ça, on mettra tout le monde d'accord. En tout cas, Sonia De Villers, les exporter avec tout ce qu'il y a de terrifiant dans votre titre et de réel. C'est un récit publié chez Flammarion. Gilles Kepel, enfant de bohème en circonflexe, mais avec un accent caché, chez Gallimard. Et puis Mackenzie Orsel, une somme humaine publiée chez Rivage. Merci à tous pour votre attention.
Merci beaucoup. Merci.